Bonjour à tous. Comme un vendredi, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, nous recevons l'historien Johan Chapoutot, ou comment, comme toujours, on va retrouver ce fil conducteur de son travail, pourquoi, chez Gallimard, dans la collection de Pierre Nora, Bibliothèque des Histoires, il signe la révolution culturelle nazie. Il nous expliquera pourquoi cette révolution à partir de 12h55. Mais d'abord, on sort les violons. Invité de la première partie de la Grande Table, romancier et dramaturge congolais Emmanuel Dongala pour la sonate à Bridge Tower, le récit méconnu du jeune prodige auquel Beethoven dédia sa célèbre sonate à Kreutzer. En toile de fond, l'esclavage en question, l'Europe du 18e en pleine ébullition, un monde des idées foisonnant, une fresque en trois destinations. La Grande Table, c'est le rendez-vous des arts et des idées à écouter en direct ou à podcaster plus tard sur franceculture.fr pour être sûr de ne rien, mais alors surtout, ne rien manquer.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Du Congo-Brazzaville où il a grandi, aux États-Unis où il s'est exilé pour fuir la guerre et enseigner, appuyé par l'ami Philippe Ross, Emmanuel Dongala, l'alchimiste, nous revient en écrivain mélomane. Après Un fusil dans la main, un poème dans la poche, son premier roman, Johnny chien méchant, adapté au cinéma, et le prix Virilo, photo de groupe au bord d'un fleuve, tous africains, son dernier roman chez Actes Sud et lui européen. La sonate à Bridge Tower nous fait traverser Paris, Londres, Vienne, les trois capitales culturelles des Lumières, dans l'étui d'un jeune violoniste prodige, Georges Lemétis, remarqué par Beethoven. Bonjour Emmanuel Dongala.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Quelle est aujourd'hui pour vous la capitale culturelle du monde ?
La capitale du quoi ? De la musique, vous avez dit ?
Non, la capitale culturelle pour vous aujourd'hui, c'est Paris, c'est Londres, c'est
oui,
New York.
Oui, c'est Paris, c'est toujours Paris, hein. New York aussi. Bon, les deux, je connais moins Londres, mais en tout cas, Paris et New York, pour moi, c'est les deux capitales culturelles.
Parce qu'à l'époque, celle de votre roman, au 18e, là où tout se passait, c'était oui. Paris, Londres et Vienne.
Voilà, c'était les trois villes où les musiciens circulaient, Paris, Londres, Vienne, et c'est les étapes du roman, justement, du voyage de ce jeune violoniste.
Roman en trois parties, Emmanuel Dongala. Vous l'avez écrit où, ce roman, du coup ?
Je l'ai écrit beaucoup aux États-Unis et beaucoup aussi à Paris. J'ai passé beaucoup de temps à l'écrire à Paris, dans des cafés très sympas de Montmartre. Et puis aussi parce que j'ai dû visiter physiquement les endroits que je décris dans le roman. Les Tuileries qui n'existent plus, bien sûr, le Palais Royal et puis des promenades sur le Pont Neuf, dans toutes ces rues, pour me replonger un peu, pour sentir physiquement la ville.
Vous écrivez dans les cafés ?
Enfin oui, oui, ça m'arrive.
Vous arrivez à vous concentrer ?
Oui, absolument. Le bruit de fond ne me gêne pas, bien au contraire.
Et vous demandez au patron du bar de vous mettre en fond la sonate à Bridge Tower ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous Mais arrivez... c'est très sympa comme atmosphère.
Vous arrivez à parler et à écrire sur la musique sans écouter en permanence de la musique dans vos oreilles, visiblement. Oui.
Oui.
Six romans à peu près, hein, je crois. 6, 7, Emmanuel Dongala ?
Oui. Hein ? Environ.
Vous écrivez beaucoup, mais vous écrivez lentement ou vous écrivez très peu, mais dans l'urgence de dire ?
Mais j'écris très peu. Hein, quand je n'ai rien à dire, je me tais. Donc si vous voyez bien, il y a à peu près 4 à 5 ans entre deux romans.
Voire plus, hein, parfois.
Voilà. Oui, et ce que j'essaie de faire, c'est que un roman soit différent de l'autre. Chaque livre doit être différent de l'autre. C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps.
Pourquoi ? Il faut que chaque histoire vous amène, vous aussi, l'écrivain, ailleurs ?
Oui, mais parce que jusque-là, par exemple, toute mon œuvre s'est concentrée sur l'Afrique. Donc j'ai parlé de tout, j'ai parlé de la corruption, de la pauvreté, de la dictature, du combat des femmes, etc. Et il me semblait avoir fait le tour de ces questions africaines, du moins pour le moment. Et j'avais besoin de faire autre chose, explorer d'autres territoires, surtout des territoires où je ne savais absolument rien.
Vous avez envie d'apprendre en écrivant, hein, l'Afrique, la oui. guerre, les inégalités, vous le dites, hein, de classe, de genre. Avec la sonate à Bridge Tower, vous changez complètement votre fusil d'épaule. Plus rien à dénoncer ? Ça, c'est pas sûr, quand même.
C'est pas qu'il n'y a plus rien à dénoncer, c'est que à un certain moment, il faut prendre du recul. Et en tant qu'écrivain, je me suis dit, s'enfermer dans un même territoire, c'est pas bien. Il faut quand même que j'ouvre mon esprit, que j'explore d'autres territoires. Et c'est ce que j'ai fait avec ce roman.
Prendre du recul, c'est-à-dire repartir au XVIIIe siècle et notamment remettre les deux pieds dans la Révolution française et dans les quelques semaines qui l'ont précédée, ça vous permet de relire, de voir autrement notre époque aussi.
Oui, recul, ça veut dire d'abord aussi quitter ce qui vous presse, ce qui vous habite tout le temps, comme les problèmes africains, et en même temps, comme vous dites, explorer cette histoire très belle que j'ai découverte, d'ailleurs par hasard, hein, tout à fait par hasard. J'avais lu la sonate à Kreutzer de Tolstoï, et puis bon, le titre m'était resté dans la tête. Et une fois, un jour, en écoutant une émission de radio, je me demande si c'était pas sur France Musique, le présentateur disait que, à l'origine, la sonate à Kreutzer n'avait pas été écrite pour Rodolphe Kreutzer, mais pour un jeune mulâtre, qui était ami de Beethoven à Vienne, voilà. Une fois que j'ai cette information, ça a commencé à me travailler. Je me suis dit, il faut creuser un peu plus. Et voilà, et j'ai commencé à me documenter.
Et voilà comment Emmanuel Dongala nous revient en écrivain tout court, et plus seulement en écrivain africain, en porte-plume d'un continent, en porte-parole de la francophonie. La sonate à Kreutzer de Beethoven, on a longtemps pensé, vous le disiez, qu'elle avait été composée pour le dit Rodolphe Kreutzer, célèbre violoniste français de l'époque. En réalité, oui. Beethoven l'aurait dédiée à un jeune prodige métis. Vous publiez d'ailleurs les pièces dans ce roman. Il se produit pour la première fois à Paris, à l'âge de 9 ans, Georges. C'est en avril 1789. Le roman s'ouvre sur ce premier concert, ce premier moment où on oublie tout, où lui oublie tout, surtout ébloui et étourdi par tous ses sons et ses couleurs. Il redevint l'enfant de 9 ans qu'il était et chercha son père du regard, écrivez-vous. Son père, originaire de la Barbade, son impresario. À Londres, il sera le protégé du prince de Galles, Georges. À Vienne, il fera la rencontre de Beethoven. De cette amitié naîtra une sonate pour violon et piano, la sonate au mulâtre, sonata Mulatica, que voilà.
Thank you.
On entend la virtuosité du violoniste. Il faut cette virtuosité pour pouvoir interpréter cette sonate pour violon et piano numéro 9 en la majeure, la dite sonate à Kreutzer. Le violoniste ici israélien Itzhak Perlman et la pianiste argentine naturalisée suisse Martha Argerich pour cette interprétation qui devrait vous plaire, Emmanuel Dongala. Aujourd'hui, que voyez-vous et que ressentez-vous quand vous l'entendez, quand vous l'écoutez cette sonate?
Justement, vous avez bien fait de dire que le titre originel donné par Beethoven, c'était Sonata Milatica, justement sonate au mulâtre. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Kreutzer ne l'a jamais joué. Il pensait que Beethoven ne connaissait rien à l'art de la sonate. Et Berlioz a écrit que Kreutzer trouvait ça absolument inintelligible. Et les critiques de l'époque avaient qualifié cette sonate de terrorisme musical, pas moins. Voilà. Donc aujourd'hui, ça m'est tellement familier que je l'écoute avec plaisir, avec autant de plaisir que quand j'écoute une rumba congolaise. Voilà. Ça fait partie de mon univers maintenant.
C'est un récit d'apprentissage, ce roman, celui de Georges, mais c'est aussi le vôtre. On pense toujours que les écrivains ont la science infuse, comme Adam. La vôtre, en matière de musique, était plutôt diffuse, est-ce qu'on peut dire ça, avant que vous commenciez à écrire cette histoire? Vous avez dû bosser dur pour y arriver. Et maintenant quoi? Vous êtes un érudit et mélomane?
Ah, peut-être pas tant que ça, ce serait un peu vaniteux, mais je connaissais pas grand-chose en fait. Mais j'ai pris des cours parce que dans l'université où je travaillais, il y avait le département de musique. Donc j'ai suivi pendant un an un cours d'appréciation de la musique baroque, classique et romantique. Et voilà. Et puis je suis allé à beaucoup de concerts, à plusieurs concerts. Et donc maintenant, bon, je sais quand même certaines choses. Je suis, disons, un amateur éclairé.
Notre invité Emmanuel Dongala pour son roman La Sonate à Bridge Tower, Sonata Mulatica, un roman qui vient de paraître chez Actes Sud.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Voilà, toute la question est là. Justement, cette sonate est restée connue sous ce nom, sonate à Kreutzer. En réalité, vous le rappelez dès le titre de l'ouvrage, elle devrait s'appeler, ou elle s'est appelée pendant un court instant, la Sonata Mulatica. Comment George Bridgetower est-il sorti de l'histoire, ce jeune prodige violoniste à qui Beethoven avait dédié cette sonate? Comment a-t-il été rayé de la petite histoire, la sienne, et oublié de la grande, Emmanuel Dongala?
Oui. Il faut savoir que cette amitié entre Beethoven et Bridgetower n'a duré que 3-4 mois et ça aboutit à ce chef-d'œuvre. On ne peut pas imaginer aujourd'hui le monde de la musique classique sans la sonate à Kreutzer. Or, cette sonate n'existerait pas si il n'y avait pas eu cette rencontre entre George Bridgetower et Beethoven. Et cela me rappelle cela fait penser à quelque chose, c'est que souvent ces brèves rencontres aboutissent vraiment à des chefs-d'œuvre inoubliables. Dans un autre domaine, je pense souvent à Picasso, la rencontre de Picasso avec l'art nègre, qui n'a duré que disons 3-4 ans à comparer avec sa longue carrière. Et pourtant, cette brève rencontre avec l'art nègre a laissé des chefs-d'œuvre comme Les Demoiselles d'Avignon, par exemple. Donc, c'est remarquable. Et voilà ce que je peux dire, quoi.
C'est alors, ils se rencontrent, ils se plaisent, voilà. Ils deviennent amis.
Ah oui, oui, et oui, puis... c'est ça. Ils deviennent amis, ils se quittaient pas pendant 3-4 mois, ils buvaient ensemble. Ils s'étaient dès la première rencontre, il y avait comme on dit, des atomes crochus entre eux. Et puis il a demandé à Beethoven d'écrire cette pièce pour qu'ils jouent ensemble. Et il le pressait parce que contrairement à Mozart, qui était un génie, qui avait la musique dans la tête, et quand il écrivait sa musique, il l'écrivait d'un trait sans rature. Beethoven, c'était tout à fait l'inverse. C'était laborieux, il travaillait, il prenait des notes, il écrivait, il raturait, il revenait. Et même une fois la pièce terminée, il reprenait encore. Donc, il procrastinait, et Georges le pressait. Et il a fini à écrire la sonate que 4 ou 5 heures avant la prestation. Et le manuscrit, la partition n'était même pas terminée, si bien qu'il n'y en avait qu'une copie. Et Georges jouait, lisait sa partition par-dessus l'épaule de Beethoven.
Donc Georges Bridgetower, il l'a joué cette partition, contrairement à Kreutzer. Hein,
c'est oui, ça. Ils ont joué ensemble.
C'est l'injustice de l'histoire première. Quand même. Hein.
Oui.
C'est ça qui est fou. Kreutzer a toujours refusé de l'interpréter, de jouer cette partition, là où Bridgetower l'a fait, et voilà. Il n'est pas resté dans l'histoire.
Mais en fait, Beethoven l'a écrite pour Georges Bridgetower. C'est pour ça que c'est si difficile. Et des musiciens professionnels m'ont dit qu'il y a très peu d'amateurs qui peuvent jouer cette sonate.
Mmh. « Regarde, dit-il, je te l'ai dédié. Georges ne s'attendait pas du tout à une telle marque de considération. Ainsi, il avait donc aux yeux de Beethoven la même importance que les princes et mécènes auxquels il avait dédicacé ses œuvres. Tout ému, il s'approcha et regarda la feuille. Il essaya de déchiffrer ce qui était écrit tout en haut de la page. « Sonata mulatica composta per il mulatto Bridgetower, gran pazzo e compositore mulatico. Sonate mulatica composé pour le maître, pour le mulâtre Bridgetower, ce grand fou et compositeur mulâtre. » Georges sourit.
Oui. C'est la mode qu'ils étaient très familiers pour faire des blagues, pour écrire, pour dédicacer de cette manière.
Sauf que cette mention va être rayée. Pourquoi ?
Parce que
je fais des liaisons dangereuses, vous avez le droit de me reprendre. Elle va être rayée, cette mention. Pourquoi ? Ils vont se disputer, les deux.
Hein. Mais voilà, justement, après le succès de cette première, ils sont allés dans un estaminet, dans un café, boire. Et vous savez, Beethoven était un peu porté sur la bouteille. Hein, et donc, tous les deux, ils buvaient. Et n'oublions pas que Beethoven était jeune. Hein, il n'avait écrit que 2 symphonies, la première et la seconde. Et il travaillait sur la troisième. Quand il a rencontré Bridgetower, il a arrêté de travailler sur la troisième, la célèbre symphonie héroïque, pour écrire cette sonate pour Bridgetower. Donc, ils sont allés boire, et puis, un peu éméchés, un peu gais, Georges a fait une remarque déplacée sur une femme qui aimait Beethoven, parce que vous savez, Beethoven...
Il n'était pas que porté sur la bouteille.
Beethoven n'avait pas beaucoup de succès auprès des femmes. D'ailleurs, on le trouvait laid, il n'était pas beau, il semble. Mais il tombait amoureux tout le temps. Et à l'époque, la femme dont il était amoureux, c'était Giulietta Guidarci.
Je ne prononce pas très bien
l'italien. Et c'est la dame à laquelle Beethoven avait dédié la célèbre sonate qui est maintenant connue sous le nom de Sonate au clair de lune. C'est un titre qui a été donné bien après la mort de Beethoven. Donc, Georges fait une remarque déplacée, disant « Ouais, ta Giulietta, elle n'est pas si belle que ça, c'est plutôt une coquette, évidemment. » Tout de suite, Beethoven se fâche, parce qu'il avait un caractère plutôt ombrageux. Il était gai, heureux, généreux, mais tout d'un coup, quand ça ne lui plaisait pas, il piquait des colères. Aujourd'hui, on dirait plutôt qu'il était plutôt cyclotimique. Et il se fâche, et voilà. Et il enlève cette dédicace pour la dédier à Rodolphe Kreutzer. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Souvenez-vous qu'il a arraché la dédicace de sa troisième symphonie. Qui voulait dédier à Napoléon. Et quand il a appris que Bonaparte s'était nommé empereur, ben il a rayé la dédicace à la symphonie qui devait s'appeler la symphonie Napoléon.
Et voilà comment on réécrit l'histoire de la musique en temps réel. Emmanuel Dongala, on a évoqué depuis le début, on parle de ce mot qui était employé à l'époque par Beethoven et par tout le monde, le mot de mulâtre. Aujourd'hui, on est un peu plus polissé, on parle de métis. Ce jeune prodige avait effectivement une double origine et une double couleur de peau quelque part, ou une couleur de peau croisée. Pourquoi quand on parle, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot de mulâtre à l'époque ? Est-ce que c'était très péjoratif ou pas ?
Oui, non, à l'époque c'était pas péjoratif, c'était très codé. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait une hiérarchie de la couleur de l'épiderme. Et c'était très codé parce que quand on disait un mulâtre, c'est quelqu'un qui était demi-blanc. S'il avait un quart de sang blanc, c'était un quarteron. S'il avait un huitième de sang blanc, c'était un octavon. S'il en avait un seizième, c'était Mamelouk. Donc, vous voyez, c'était très, très codé. Et à l'époque, c'était pas du tout péjoratif. C'est comme ça qu'on appelait les gens, parce que la notion en fait de racisme n'existait pas encore à l'époque. Donc, il faut pas qu'on projette ça sur cette époque-là. C'est pour ça l'une des difficultés de ce roman, pendant que je l'écrivais, c'est d'éviter les anachronismes, d'éviter de regarder ce qui se passait avec mon œil d'un homme du XXe siècle, du XXIe siècle.
Alors Georges ne parviendra à se faire accepter aussi que parce qu'il porte quand même quelque part sur son visage une touche d'exotisme. Le père se fait d'ailleurs cette réflexion en voyant une affichette publicitaire. Georges Bridgetower, né aux colonies anglaises. Georges n'était pas né aux colonies, mais qu'importe, cette touche d'exotisme ne pourrait qu'attirer le public, écrivez-vous. Ailleurs, plus loin, ce jour-là, son intention avait été d'exploiter l'image colportée sur les natifs d'une autre partie du monde que l'Europe, et le turban et le caftan étaient tout désignés pour satisfaire cet exotisme facile. Il fallait donc présenter une image de soi conforme au monde duquel elle s'était efforcée si ardemment de se faire accepter. On est avant la Révolution, hein, Emmanuel Dongala. Oui. Dans les salons parisiens, la question de l'esclavage, la fin de l'esclavage fait débat. Mais la question noire reste, vous le dites, l'une des parts d'ombre hein, des Lumières. Vous rappelez qu'à l'époque, même chez les plus grands penseurs, il y avait cette hiérarchie de l'épiderme qui était très tenace et vivace. Mais il y avait aussi une élite noire qui était bien intégrée et qui militait, elle, contre l'esclavage.
Oui, donc d'abord, pour la première partie, cette fin du XVIIIe siècle... Il y avait la mode de l'orientalisme. L'orientalisme, c'était un exotisme un peu facile. On dirait aujourd'hui un exotisme kitsch. Et le père de Georges Bridgetower avait bien compris cela. Et il disait, vous voulez de l'exotisme? Eh bien, voilà. Donc, il s'habitait en caftan, turban, etc. pour se faire accepter. Et ça passait très bien. Et n'oublions pas que aussi on était encore en plein esclavage. Et on oublie souvent que, bien sûr, les philosophes des Lumières ont combattu pour la liberté, mais ils n'avaient pas, à cette époque-là, remis en cause la hiérarchie des races, parce qu'à l'époque, on classifiait la race blanche était au-dessus, et les noirs étaient tout à fait en bas. De Voltaire à Buffon, c'était ça. Et même Voltaire a eu des propos très dur avec envers les noirs et les juifs. Hein. Aujourd'hui, on traiterait ça de racisme et d'antisémitisme. Mais par contre, il y en a d'autres qui, comme Condorcet, Olympe de Gouges, Lafayette, qui d'emblée prenaient les noirs pour des égaux.
Olympe de Gouges qui demandera au père du jeune prodige s'il veut pas être le personnage principal de sa pièce qui traite justement de l'esclavagisme, de l'esclavage et puis de l'injustice des maîtres blancs. Sachez, monsieur, que l'espèce d'homme nègre m'a toujours intéressé à son déplorable sort, écrivez-vous, Emmanuel Dongala. Oui. Sur cette question des Noirs, vous nous rappelez aussi, et ça, c'est pas si connu, qu'il y avait aussi à l'époque une police des Noirs. Hein. Oui. Une police des Noirs qui était chargée d'interdire l'entrée des Noirs en France, parce qu'on estimait qu'il y en avait déjà trop dans le royaume. Quant à ceux qui y vivaient, écrivez-vous, elle était chargée de contrôler s'ils séjournaient légalement dans le pays en s'assurant qu'ils portaient bien leur cartouche, voilà. Un étui métallique contenant un certificat portant le nom, l'âge, la profession, ainsi que le nom du propriétaire de la personne si elle était esclave.
Exactement. Exactement. On pensait déjà qu'il y avait trop de noirs en France à l'époque.
Sur cette question du racisme et oui. De l'esclavagisme, de l'esclavage tout court, Emmanuel Dongala, écoutez ce que nous disait le Martiniquais Patrick Chamoiseau, qui était notre invité dans la Grande Table, sur cette question et sa perception outre-Atlantique.
Très souvent, vous savez, on va vous dire, et même Monsieur Fillon dernièrement, il disait « la France n'a pas inventé l'esclavage, que l'esclavage existe depuis très longtemps, avec les Arabes, que toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage ». Mais l'esclavage de type américain, c'est le seul esclavage qui est, je dirais, installé une sorte de damnation ontologique de phénotype nègre. Le racisme apparaît avec la traite des nègres. Avant, vous verrez dans tous les textes antiques, on parle de gens noirs, etc. Même dans la chanson de Roland, vous verrez, il y a des chefs noirs, des empereurs assez formidables qui sont décrits. Mais lorsque la traite commence, il faut justifier cette ignominie. Et pour la justifier, on va inventer le nègre qui n'est pas vraiment un homme, l'Afrique qui n'est pas vraiment un lieu de civilisation. Et ça va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que pendant l'esclavage aux Amériques, même lorsque vous étiez affranchi, vous restiez quelqu'un de seconde zone, parce que c'est la peau qui était visée. C'est pas simplement un statut juridique qu'on vous imposait et qu'on pouvait enlever, c'est véritablement votre peau qui était devenue synonyme d'infériorité, de sous-humanité et d'esclavage automatique.
Emmanuel Ongala, vous voyez des similitudes entre ce que vous vous racontez, ce que vous avez pu constater, ce que nous disait à l'époque donc Patrick Chamoiseau.
Oui, même à cette époque, là, les Noirs, les Métis qui étaient très bien intégrés, comme le chevalier de Saint-Georges ou Alexandre Dumas, le père de l'écrivain, il y avait un plafond de verre, comme on dirait aujourd'hui, qui ne pouvait pas dépasser. Quand on a voulu nommer le chevalier de Saint-Georges directeur de l'opéra, ben, les divas ont refusé. Mais à ce qu'a dit Patrick Chamoiseau, je voudrais ajouter une chose qui est aussi importante. Il y avait un esclavage arabo-musulman qui était très très important aussi. Et le grand penseur musulman qui s'appelle Ibn Khaldoun a écrit que de tous les peuples de la terre, seuls les nègres acceptent d'être esclaves parce que leur statut est plus proche de celui des animaux. Donc, cette partie de l'esclavage-là est souvent ignorée.
Paris est au bord de l'insurrection, quand vous le racontez dans ce roman, avec des idéaux révolutionnaires qui font peur, mais ce roman est aussi une galerie de portraits et de personnages absolument incroyables, des artistes, des musiciens, des scientifiques, des aristocrates et des révolutionnaires qui, du coup, croisent votre route et votre plume. Emmanuel Dongala, on y retrouve, vous l'évoquiez, Olympe de Gouges, Condorcet et ce chevalier de Saint-Georges qui était fils d'une négresse, hein, comme vous l'écrivez, et qui a réussi quand même à se faire accepter par l'aristocratie parisienne, tout en ayant pu accéder à la tête de l'opéra. Il y a toute une critique aussi dans votre ouvrage sur la société mondaine de l'époque où la culture s'affiche. C'est encore un peu le cas peut-être aujourd'hui, on en a gardé des beaux restes.
Oui, mais à l'époque, en fait, c'est la musique qui jouait le rôle central. C'est là où, dans les salons, se réunissaient toute une galerie de personnages, les philosophes, les savants, les hommes politiques, les mirliflores, un mot que j'aime beaucoup, tous ces élégants, ces gandins qui se présentaient dans les salons. Voilà, et ça se brassait les idées.
Et on l'entend même dans vos mots aujourd'hui. Ce roman signe aussi vos retrouvailles avec la langue française, celle du XVIIIe siècle, Emmanuel Dongala, La Sonate à Bridge Tower, un roman qui vient de paraître chez Actes Sud. Deux rendez-vous culturels à vous indiquer pour l'occasion. L'Afrique des routes, une exposition qui ouvrira ses portes dans quelques jours au Quai Branly. L'Afrique, un continent sans histoire, et bien au contraire, dans cette exposition, il est question de nombreux échanges panafricains et extra-africains qui avaient débuté bien avant les indépendances, la colonisation et l'arrivée des premiers navires portugais au milieu du 15e siècle. Voilà, puisqu'il était beaucoup question d'échange ce midi aussi avec vous. Et puis on écoute quelques notes du guitariste Emmanuel Rosfelder. Il sera à 18h30 au Petit Théâtre de la Criée à Marseille samedi, parce que la Criée ouvre sa boîte à musique ce week-end. Le rythme des peuples, c'est le thème de la Criée Festival au Théâtre de la Criée à Marseille jusqu'à dimanche. Merci mille fois à vous, Emmanuel Dongala. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.